Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Good morning business, le grand débat.
Allez, c'est parti pour notre grand débat avec Emmanuel Galichet, Guy Mamoumani, Jean-Marc Daniel et Anthony Morel. Apparemment, personne sur ce plateau n'a peur de l'intelligence artificielle.
Si, moi, oui.
Alors, vous auriez peut-être pu signer cette tribune des 1100 scientifiques et personnalités du monde de la tech, à commencer par Elon Musk et puis le fondateur d'Apple. Ils ont très peur des risques que l'intelligence artificielle pourrait faire peser sur nos sociétés. Explication Simon Tenenbaum.
Une pause d'au moins 6 mois pendant lesquels tous les chercheurs s'engageraient à ne pas entraîner d'intelligence artificielle plus puissante que GPT-4. Voilà la mesure urgente réclamée dans cette lettre ouverte. Des IA plus perfectionnées ne devraient être développées que si nous sommes sûrs de leurs effets positifs. Il s'agit donc d'instaurer rapidement des protocoles de sécurité. Si le secteur ne le fait pas, les gouvernements doivent imposer un moratoire, selon les signataires, qui alertent des risques sur l'emploi, la démocratie, la désinformation engendrée par des IA devenues potentiellement incontrôlables. Des ingénieurs de Meta, Microsoft, Google, des scientifiques du MIT, du CNRS, des patrons de start-up ont signé cet appel aux côtés d'Elon Musk qui compare souvent l'intelligence artificielle à l'arme nucléaire. Si le patron d'OpenAI, Sam Altman, ne figure pas parmi les signataires, il se disait lui-même récemment effrayé des progrès de ChatGPT et appelait de ses voeux une régulation de l'intelligence artificielle.
Anthony Morel, c'est pas n'importe qui, ces signataires.
Non, c'est vrai.
Pourquoi ils ont peur ?
J'allais dire, Elon Musk, c'est peut-être le moins important d'entre eux, en fait.
Bon.
Oui, parce qu'en plus, lui, il a une petite vendetta personnelle contre OpenAI, qu'il a quitté il y a quelques années.
Lui, voilà. Il veut l'homme augmenté.
Lui, il veut l'homme augmenté. Enfin, voilà, il a toujours eu ce discours sur l'intelligence artificielle. Mais c'est vrai que le fait que des ingénieurs du MIT, des chercheurs en intelligence artificielle, donc les gens vraiment qui ont, j'allais dire, les mains dans le cambouis, qui sont les cerveaux derrière l'intelligence artificielle, nous disent attention, la technologie va très vite, peut-être trop vite pour nous, et c'est pas à nous de jouer les apprentis sorciers. Il faut qu'il y ait une régulation, ou en tout cas une réflexion à l'échelle des sociétés. Oui, forcément, ça devrait nous alerter, nous faire réfléchir.
Emmanuel Galichet, quand vous entendez qu'on compare l'intelligence artificielle à une arme nucléaire, vous qui êtes chercheuse justement en physique nucléaire, ça vous fait doucement sourire. Mais quand même, vous êtes chercheuse. Est-ce que ça vous inquiète sur votre futur travail, dans la manière dont vous allez chercher désormais?
Ben non, parce qu'en fait, les directions, c'est quand même l'intelligence humaine qui va les donner. Donc en fait, il faut vraiment voir l'IA comme un outil qui va nous aider à aller plus vite, être plus efficace. Alors effectivement, c'est intéressant de pouvoir s'arrêter et de faire une réglementation bien comme il faut. D'ailleurs, sur le nucléaire, on l'a fait, hein, avec des traités internationaux. Mmh. Donc là, je suis d'accord. Mais en tout cas, moi, je rêve d'avoir Jarvis à côté de moi quand je vais faire un cours. Vous imaginez, je lui dis de me donner ce système, il me le donne, je le montre à mes élèves. Moi, c'est ça qui m'a... Quand j'ai vu Iron Man, franchement, Jarvis, j'ai dit je le veux dans mes cours.
Guy Mamoumani.
Écoutez, je dirais deux choses. D'abord, la comparaison d'Elon Musk avec la bombe nucléaire est mauvaise. Non, la vraie comparaison, c'est que l'intelligence artificielle, on va dire, c'est plutôt l'atome. Alors, vous pouvez avoir d'un côté la bombe atomique, oui, de l'autre côté, vous avez la radiothérapie, donc, et l'énergie nucléaire. Donc c'est ça la bonne comparaison, ouais. Et qui ferait que justement, et là on arrive à cette lettre commune là, qui m'a fait bien sourire, parce que en fait, qu'est-ce que ça signifie ces 200 ou 300 chercheurs ?
1100
chercheurs, non, ils ont découvert, oh magnifique la régulation. Ouais. Évidemment qu'il faut une régulation. Tout à l'heure, on a dit qu'on n'avait pas peur de l'intelligence artificielle. Bien sûr que non, mais il ne faut pas être angélique. Il y a en effet beaucoup de dangers. On voit bien ce qu'en fait la Chine, par exemple. Ouais. Donc moi, je suis tout à fait partisan, premièrement, d'une régulation et surtout d'une éducation, une acculturation, une formation pour pouvoir l'utiliser dans le bon sens.
Jean-Marc Daniel, vous allez vous trouver sur le chemin de ceux qui veulent réguler l'intelligence artificielle.
Alors là, sûrement pas. Autant je n'ai pas peur, autant je considère que ce dont j'ai peur, c'est la régulation, justement. C'est-à-dire que confier la régulation aux gens qui ont transformé l'énergie nucléaire en bombe atomique, confier la régulation aux États qui sont dans une logique de pouvoir, de puissance, de destruction, et non pas dans une logique forcément de bien-être systématique. On peut remonter dans les plus hauts temps, c'est-à-dire que l'Église catholique, par exemple, avait interdit un certain nombre d'armes. Dès qu'il y a eu la première guerre, ces armes ont été remises en place. On cite souvent l'exemple de l'archevêque de Constantinople qui avait interdit le feu grégeois. Vous vous souvenez, le feu grégeois, c'était cette arme redoutable qui mettait le feu à la mer, qui mettait le feu au bateau. Au premier bateau arabe qui s'est présenté devant Constantinople, ils ont balancé du feu grégeois. Donc les États ne sont pas à même de réguler quoi que ce soit en termes d'intelligence, qu'elle soit réelle, artificielle ou humaine. Ouais. Donc je pense que la vraie régulation, c'est la communauté scientifique qui doit la mener. Et la communauté scientifique, elle a effectivement 1100 brebis galeuses qui ont pris du retard, je pense, par rapport à leurs autres. Par rapport à leurs concurrents.
C'est pas les perdreaux de la légende, Marc, quand même.
Écoutez, donnez-nous 6 mois qu'on vous rattrape. Non, ouais. Écoutez, c'est pas sérieux.
Mais c'est ça. Oui. Anthony ?
Non, après, le truc, c'est que ce qui est vrai, c'est que les 6 mois, il y a un côté un peu ridicule. C'est-à-dire, OK, on se pose 6 mois et après, on fait quoi ?
On avait Datadome ce matin, il a dit 6 mois, non, moi je continue.
Non, mais c'est ça.
Mais regardez, Jean-Marc, il est très naïf parce qu'on voit déjà l'utilisation dangereuse qui est faite de l'IA.
Alors, c'est vrai, mais alors, je reprends. Alors, moi, c'est pas la
théorie. Par les États ?
C'est pas l'exemple de l'atome, mais c'est l'exemple, moi, c'est la théorie du couteau aztèque. Un couteau aztèque, on peut s'en servir pour couper son steak ou on peut s'en servir pour tuer son voisin. L'IA, c'est pareil, c'est les usages qui comptent. Mais c'est vrai, vous avez raison de dire que les usages, il y a déjà un certain nombre de dérives qui sont. On parlait de ce rapport d'Europol qui nous dit les criminels vont s'en emparer, ils vont pouvoir faire des mails de phishing avec un niveau de perfection absolument incroyable, ils s'en servent pour coder des malwares et ça va permettre à des gens même qui n'ont aucune connaissance préalable de lancer des attaques informatiques, ça va permettre évidemment de lancer des fake news à très grande échelle. Ce sont aussi des sujets de préoccupation et il va falloir les prendre à bras le corps et je ne suis pas sûr que la communauté scientifique suffise pour réguler tout ça. Il faut qu'on ait une réflexion, je pense, plus vaste, une réflexion de société réellement.
Vous en voulez pas, Jean-Marc, cette réflexion?
Non, mais moi, je pense qu'effectivement, là, je fais confiance à la justice de mon pays, mais les gens qui balancent le plus de fake news, ce sont les États. Les gens qui utilisent l'intelligence artificielle avec un intérêt qui est un intérêt de puissance, de pouvoir et de destruction des autres, c'est plus souvent les États que la criminalité. La criminalité, elle a un objectif clair et simple, c'est gagner un maximum d'argent en un minimum de temps. Bon, mais très bien. Et donc, il y a des lois qui, et la loi, effectivement, que ce soit pour l'intelligence artificielle ou pour le reste, la loi est pour encadrer la criminalité, pour lutter contre la criminalité. Mais considérer qu'il y a une sorte de philosophie générale de l'intelligence artificielle qui doit être portée par des régulateurs, je dis non. Ou alors on est contre le progrès technique et on peut redécouvrir Jacques Ellul, Le grand bluff technologique, c'est un texte passionnant où il démontre effectivement que la technologie est devenue une logique en soi qui échappe non pas au pouvoir mais qui échappe même à son objectif initial, c'est-à-dire améliorer le bien-être et elle n'y arrive pas. Mais ça c'est une position philosophique.
Emmanuel Galichet, quand vous entendez que c'est aux scientifiques de faire la régulation, que les États, finalement, ils le font mal, le job. Donc...
Oui, alors, ils le font mal, peut-être. Je veux pas rentrer. Moi, je pense qu'effectivement, les scientifiques ont un rôle, mais les États aussi. Dans toutes les grandes avancées technologiques, il y a eu les deux, de manière à se mettre d'accord sur des règles, je dirais, une éthique.
Un traité international de l'intelligence artificielle.
Je pense que c'est absolument important et incontournable. Ça, c'est sûr.
Ça existe, puisque c'est en train d'être fait par l'Europe, ça s'appelle le AI Act, et on est en train de travailler sur tous ces sujets, et Jean-Marc, je ne suis pas d'accord du tout avec toi, parce que en fait, on a un très bon exemple qui est le RGPD, que je trouve absolument salutaire. On a vu comment Facebook a utilisé les données de ses clients et maintenant il ne peut plus le faire grâce au RGPD, d'autant plus que ce RGPD qui a été critiqué, pour mille raisons, vous savez l'histoire, c'est les Américains inventent, les Chinois copient, les Européens régulent. Maintenant, la Californie se met à faire un RGPD, l'Indonésie, l'Inde réfléchissent à un RGPD. Non, une régulation, c'est un peu d'ailleurs ce que tu as décrit, c'est un cadre, et je ne sais pas comment tu le vois, mais c'est absolument nécessaire à un moment même où justement nous défendons le progrès technique, nous défendons l'utilisation de l'IA, de savoir qu'on n'en fait pas n'importe quoi.
Non, mais deux remarques par rapport à ça. On peut signer des traités. Je rappelle qu'il y a un traité de non-prolifération de l'arme nucléaire qui a été signé. Et il y a une carte connue, publiée par l'ONU, qui indique tous les pays dont on pense qu'ils ont déjà l'arme nucléaire indépendamment du traité. Il ne faut pas se faire d'illusions. On peut multiplier.
Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas tant que ça, quand même.
Il y en a qui sont pas très loin et qui attendent le moment. C'est comme le feu grégeois. Vous savez, si jamais les Chinois attaquent les Japonais auront l'arme nucléaire, même s'ils ne l'ont pas officiellement.
Non, ils ne l'ont pas, les Japonais. Non, non. Absolument.
Et la deuxième remarque que je ferai, le RGPD, à mon avis, ça ne sert à rien. Le véritable enjeu sur le traitement des données, c'est effectivement de vérifier, un, que les gens sont au courant, et deux, que le traitement et l'utilisation des données est géré de façon concurrentielle. Donc le rôle de l'État...
Tu viens de définir le RGPD, là.
Mais non, le rôle de l'État, c'est de définir la concurrence, et simplement, et pas de dire, vous avez le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est, si vous faites ça, il y a quelqu'un qui va venir prendre votre place parce que la population n'accepte pas que vous le fassiez.
Anthony, vous aviez dit du mal de la RGPD ?
Oui, aussi. Mais pour aller un peu dans le sens de Jean-Marc, c'est vrai que le gros problème de la régulation aussi, c'est que c'est une régulation qui est toujours à géographie variable. Et que forcément, si nous, on décide de s'arrêter pendant 6 mois, est-ce que tous les pays vont décider de s'arrêter pendant 6 mois ? Il y a un autre exemple dans l'intelligence artificielle. Alors, c'est pas de ChatGPT, mais on parle beaucoup. C'est on parle des robots tueurs, des systèmes d'armes létaux autonomes qui utilisent de l'intelligence artificielle et qui les couplent avec des armes. Et là, il y a toute une question aussi. Est-ce qu'il faut réguler ? Et tous les pays occidentaux se gargarisent autour de ça et disent oui, il faut une régulation, il faut les interdire. Pendant ce temps-là, les Chinois et les Russes, ils continuent d'avancer et de faire des chars Kalachnikov autonomes. Voilà.
Non, mais sur ça, il faut surtout pas être naïf. Il faut surtout pas être naïf. En effet, on nous dit d'arrêter 6 mois. La Chine, ils vont pas réguler, les Russes vont pas arrêter 6 mois. Hein. Mais il n'en reste pas moins que moi, je n'ai pas envie d'avoir le crédit social chinois en Europe. Donc, je me réjouis que le RGPD, l'AI Act, interdisent cela. Et franchement, je ne vois pas pourquoi, en disant ça, je me trouve en génie.
Le crédit social, il faut dire ce que c'est. On note chaque citoyen et en fonction de son attitude dans la régime chinois. Et en fonction de la note, vous avez accès à plus ou moins de services, à des crédits, etc.
Et grâce à la reconnaissance faciale, à l'intelligence artificielle, on a vu que vous avez traversé hors des clous. Et ben donc, vous ne pourrez pas plus sortir de Chine.
Exactement.
Je caricature un peu. Hein.
Allez, l'autre débat, c'est celui sur le nucléaire, puisqu'il y a quelques minutes, les États européens sont parvenus à un accord sur le mix énergétique pour 2030. Il faudra 42,5% de renouvelables. Renouvelables, ça veut dire solaire et éolien. Et quand on regarde les chiffres aujourd'hui, il y a des pays qui sont à 63%, comme la Suède, et d'autres qui sont très bas, comme 13% pour le Luxembourg, les Pays-Bas ou encore l'Irlande. La France, on est à 20%. Est-ce qu'on est capable d'arriver à 42% en 2030 ? On a posé la question à Emmanuelle Wargon, la présidente de la CRE, qui était sur ce plateau il y a quelques minutes.
On est en retard par rapport à l'objectif qu'on s'était nous-mêmes fixé, parce qu'on s'était fixé un objectif à 23%, il me semble on est autour de 20%. Je rappelle encore une fois que nous, notre électricité est décarbonée. Mais ensuite, on a un gros potentiel d'éolien offshore dans lequel on peut faire beaucoup de puissance. On a cette volonté d'accélération, donc c'est pas sûr qu'on n'y arrivera pas. C'est trop tôt pour être défaitiste. C'est possible d'avoir une trajectoire jusqu'à 40, voire jusqu'à 42,5. C'est une trajectoire très volontariste qui nécessite qu'on aille beaucoup plus vite.
C'est pas sûr qu'on n'y arrivera pas, nous dit Mélène Wargon. Donc on est quand même mal parti, Mélène Galichet. Toute la question, c'est la place du nucléaire dans cette question de décarbonation. Est-ce que on prend cet objectif ou est-ce qu'en fait l'objectif c'est juste de faire monter le renouvelable ? C'est pas tranché encore aujourd'hui.
Non, alors il faut faire une vraie différence entre un mix électrique et un mix énergétique. Aujourd'hui, le nucléaire n'est que dans le mix électrique, d'accord ? Et il nous permet effectivement d'avoir plus de 90% décarboné. Ouais. En Europe, c'est pas le cas. Mais en tout cas, si vous voulez faire du mix énergétique, le nucléaire, il est sur l'électricité. Donc il faut pas faire l'éolien contre le nucléaire, ça n'a rien à voir. Nous, au moins, on a déjà notre électricité décarbonée.
Oui, mais les Allemands nous disent, on s'en fiche, ce qu'on veut, c'est du renouvelable. On veut pas de nucléaire dans ce mix. C'est ça le problème européen.
C'est leur problème, je veux dire. Si le mix énergétique, ensuite il y a le transport, et il y a la chaleur, c'est-à-dire le logement. Donc il faut passer, effectivement, l'idée c'est d'électrifier les usages. Donc pour passer de l'électricité à un mix énergétique total, un peu plus décarboné. Mais allons-y, 42% à voir. Je pense que dans certains pays ça sera possible, dans d'autres ça sera... Mais c'est pas le combat nucléaire ENR, ça n'a rien à voir.
Oui, mais parce que les pronucléaires sont plutôt ouverts aux énergies renouvelables. Par contre, les énergies renouvelables, ils sont pas très pronucléaires. C'est-à-dire que le débat n'est pas...
Il n'est pas équitable.
Il n'est pas équitable.
Absolument. Il faut faut essayer de comprendre, il faut avoir une vision un peu plus à long terme, un peu plus générale, et se dire qu'on aura besoin de toutes les énergies décarbonées, parce qu'effectivement, réussir à décarboner tout le mix, ça veut dire plus de 40%, plus de 60% finalement, qui aujourd'hui est sur le gaz et le charbon et le pétrole, ben, on a besoin de tout le monde, quoi.
Guy Mamoumani, c'est vraiment un dialogue de sourds entre les Français et les Allemands,
ce moment-là. Moi, à mon avis, c'est plutôt un dialogue de concurrence économique.
Ouais,
les Allemands, qui ont fait une énorme bêtise en arrêtant le nucléaire, en se retrouvant avec du charbon pour le compenser, eh ben, essayent de handicaper les Français qui ont une magnifique source d'énergie qui, justement, leur donne une très grosse compétitivité.
Jean-Marc.
Non, je suis pas du tout d'accord avec ça. Notre source d'énergie ne nous donne aucune source de compétitivité. Elle est en panne, elle est vieillissante, elle est épuisée. On n'a pas arrêté d'importer de l'électricité cet hiver. Donc les Allemands se marrent plutôt que s'indignent et nous menacent. Je pense en revanche qu'il y a un vrai enjeu. Je pense qu'effectivement, il faut pas raisonner qu'électricité. Un des enjeux, c'est aussi la sobriété. Les outils qu'on doit mettre en place, c'est systématiquement un prix du carbone qui incite les gens à ne plus utiliser du carbone. Un des enjeux, c'est quand même d'avoir une politique sur la taxe carbone qui soit une politique claire, définie et affichée. Et quant au nucléaire, c'est pas une énergie fossile au sens que c'est pas du charbon et du pétrole, mais c'est quand même des fossiles. On arrache quand même une partie de la matière première à la Terre. C'est-à-dire, on va transformer notre dépendance de l'Arabie Saoudite à une dépendance du Kazakhstan. Donc je pense que l'avantage de l'éolien, du renouvelable, c'est que c'est le soleil qui est la source. Et ça, il est partagé par tout le monde.
Les panneaux et les pales des éoliennes, c'est des matières premières. Tout est matière première, même vous, et on est tous des matières premières.
Ils mangent pas de viande.
Donc effectivement, il y a des gens qui disent que pour réduire le CO2, il faut augmenter la population.
Vous avez raison sur la sobriété.
Vous êtes complètement carboné alors.
Jean-Marc, mange de la viande. Non, mais Emmanuel, sur la réponse sur le nucléaire, l'argument de Jean-Marc de dire ça marche pas, c'est des vieilles centrales, c'est tout. Il y a 30% du parc qui marche pas actuellement. C'est pas mal.
J'ai regardé hier, c'est 21 qui sont off en ce moment.
C'est
effectivement.
C'est beaucoup sur 50.
On a construit un parc dans les années 70. On a entre les années 80 et 90 construit énormément, plus de 20 réacteurs dans ces années-là. Aujourd'hui, évidemment qu'elles vieillissent, elles sont encore en très bon état, mais il y a besoin du fait des prescriptions de l'ASN, de l'autorité de sûreté nucléaire, de faire ce qu'on appelle le grand carénage.
Ouais.
Et donc, de 2025 jusqu'à 2030, on va être dans une période où il faut remplacer des pièces.
Alors, on va parler aussi de l'hydrogène, parce que c'est vrai que c'est le grand débat aussi en ce moment. Il faut remplacer le gaz, notamment dans les industries, par de l'hydrogène. La question, c'est comment est-ce qu'on produit l'hydrogène? Est-ce qu'on a le droit de le produire avec du nucléaire? Les Allemands nous disent non. Alors là, on a obtenu un accord où on dit que le nucléaire n'est ni vert...
Ni fossile.
C'est un peu vraiment un débat compliqué. Thierry Leperc, le président d'Ideal, qui est l'ancien patron de Solaire Direct, était hier soir sur BFM Business. Écoutez son raisonnement.
Sur un plan purement technique, si on va produire l'hydrogène en France aujourd'hui, on sait tous qu'on va importer, on importe de l'électricité aujourd'hui, on va importer plus d'électricité, et donc l'hydrogène qu'on va produire va être un hydrogène en fait fait à partir d'électricité importée, en l'occurrence de charbon allemand. Donc le fameux hydrogène décarboné français sera plutôt l'hydrogène charbon allemand.
Voilà.
D'où la compétition économique.
Oui, mais bien sûr, mais Jean-Marc,
mais non, c'est pas de la compétition
économique.
On n'est pas en compétition, mais capable de faire face.
Non, mais
vous
Jean-Marc,
êtes en compétition quand vous êtes capable de faire face.
L'alternative est laquelle? Tout le monde est d'accord. Et je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il est absolument nécessaire de progresser dans les ENR. Je ne crois pas que...
L'énergie renouvelable.
Ah oui, tout le monde est d'accord.
Voilà. Le problème, c'est en attendant, je fais quoi? Du charbon comme les Allemands qui sont au modèle, ou plutôt, comme vient de le dire Emmanuel, d'évoluer dans notre nucléaire et de le moderniser au lieu de taper dessus toute la journée.
À l'instant T, il l'a bien dit, on importe parce que notre nucléaire ne répond pas aux... Et donc ça ne sert à rien.
Non, ça, c'est pas vrai, on n'importe pas. On importe de l'électricité. Non, non, on a une demande.
On a importé l'électricité tout cet
hiver. Absolument. Ouais. Mais aujourd'hui, on n'importe pas. Ça dépend. C'est absolument thermosensible, l'électricité. Ah, donc, effectivement, aujourd'hui, on n'importe plus.
Mais quand on importe, Emmanuel, ça nous coûte cher quand même.
Ça coûte
les
cher.
Moments où il faut vraiment
absolument,
qu'on le fasse.
Absolument. Et d'ailleurs, faites attention que tous les scénarios où il y a des ENR, les interconnexions sont extrêmement importantes.
Ouais.
Donc, plus vous allez avoir d'ENR dans votre mix...
Énergie renouvelable.
Voilà, énergie renouvelable. Eh bien, vous avez besoin aussi des interconnexions. Donc, il ne faut pas parler au niveau national, il faut regarder au niveau européen. Et il faut pouvoir répondre à un besoin européen.
On aurait pu finir sur le prix de l'électricité, mais c'est un autre débat. Avec le prix du gaz qui est inclus dedans.
On va débattre jusqu'à demain, mais il faut qu'on arrête.